Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors, on travaille depuis quelques années sur la question du développement durable et des territoires dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau développement durable et territoires, qui édite la revue développement durable et territoires, un peu maniaque. Voilà, donc ça nous a amené à travailler sur pas mal de choses, de questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc je vais réagir à la fois en tenant compte de savoir, c'est un peu, voilà, de cette expérience-là, pour soulever un certain nombre de questions, parce que je trouve que la manière dont se construit cette réflexion critique à l'égard du développement durable, c'est plutôt bien, ça manquait un peu. Voilà, on va contribuer à la critique, hein, et puis c'est toujours plus rigolo de critiquer que de proposer, comme disait ma grand-mère. Alors, l'hypothèse d'un mode d'habiter, puisque c'était un peu cette idée-là qui nous préoccupe aujourd'hui, l'idée que, effectivement, à partir de cette réflexion sur comment on habite l'espace, ça nous permettait de dessiner une autre ville durable que celle imposée par la vision technique et économique. Finalement, ça me semble renvoyer à une triple grille d'interrogations. Alors, je vais essayer de détailler ces interrogations en tenant compte des deux interventions, comme ça, ça permettra de réagir par rapport à ça. La première grille d'interrogation, qui est plutôt une réflexion un peu épistémologique, de Baleni, hein, je vous l'accorde bien volontiers, qui est de dire que finalement, on travaille toujours en tant que chercheur à partir d'une perception un peu mythique du rôle des habitants. Et je dois vous avouer que ça commence sérieusement à m'agacer, moi. Depuis notamment les travaux qu'on fait dans le cadre du concertation décision environnement du ministère de l'Environnement et de la Recherche, où très honnêtement, la plupart des productions de recherche qui sont faites, et je le dis tout en plus facilement, parce que les gens ici pourront réagir, ils ne sont pas obligés de partager mon point de vue, mais on a une vision de ce qui devrait être fait par l'instrumentalisation de la parole des habitants. Autrement dit, il y a une vraie sacralisation, mais ça renvoie à quelque chose de très profond dans le rapport que nous entretenons en tant que chercheurs avec le référentiel démocratique, qui est implicitement que toute parole d'habitant est une parole sacrée et qu'il convient d'entendre. Alors moi, je ne partage pas du tout ce point de vue-là, hein, pour justement avoir travaillé sur l'exemple de Los Angeles, où il y a un certain nombre de déclarations qui ne sont jamais reprises, notamment par les travaux de Salia Milianoff, sur un certain nombre de stigmatisations de l'autre, dans l'idée que le quartier, c'est le nôtre, c'est pas celui des autres. Et ce renfermement identitaire n'est jamais travaillé sur les aspects de la littérature de ce qu'on appelle la ville durable. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cette espèce de mise en récit, finalement, du récit qui est porté par les habitants, et cette manière de fermer la parole de l'habitant à quelque chose qui est souhaitable, parce que conforme au mythe de la ville durable, comme espace ouvert, de symbiose, et patati et patata, enfin, tout le monde connaît ce discours-là. Donc ça, c'est le premier présupposé démocratique qui me semble important à interroger. Et Yannick ne me contredira pas. Les politiques étant des gens cyniques et complètement désabusés, avant l'âge, bon, ça nous plaît bien de tripatouiller ces notions-là. Mais c'est aussi quelque chose de profondément ancré dans la communauté de la science politique, où effectivement, cette vision de l'habitant est rarement questionnée, sauf les travaux de Magali Longeon, N-O, je fais comme toi, O-J-O-N, qui a vraiment fait un travail remarquable sur la construction de la catégorie habitant. Comment on passe de citoyen à habitant? C'est quand même rigolo, hein. Cette espèce de dépolitisation progressive de l'expression de la parole au profit d'une instrumentalisation technique de cette parole. Ça fait chier. Voilà. Alors, Los Angeles, par exemple, c'est effectivement le cas. On a travaillé aussi avec Caroline Lejeune, une doctorante, sur la zone de l'Union, où ça nous a franchement fait rigoler. Sur l'idée de la parole aux habitants. Il n'y a pas d'habitants sur la zone de l'Union, sauf 400 Roms. Mais les Roms, on ne les a jamais consultés pour savoir ce qu'ils voulaient faire de l'écoquartier, bien évidemment. Hein. Et les habitants périphériques, on a fait un travail complémentaire financé par le PEPS, je les remercie d'ailleurs, et on a travaillé sur les habitants périphériques, justement, ce qu'ils pensaient de l'écoquartier. Et ils n'en ont rien à foutre. D'abord, ils ne connaissent pas l'écoquartier. Première information extrêmement intéressante sur l'idée que ça va dynamiser la ville des Patakès. Ils ne connaissent pas l'écoquartier. Et la deuxième chose, quand on leur propose une réflexion là-dessus, ils disent « Attendez, nous, ce qu'on veut, c'est du travail. Le reste, Vous pouvez nous installer un CVSO si vous voulez, on s'en fout, on veut du boulot. Et la troisième chose, c'est qu'on en a marre d'être relégué socialement. Donc il y a une vraie critique sociale qui finalement ne peut pas être reprise en cause dans les critères standards de ce qu'on appelle la vie durable, parce que ça ne colle pas avec nos schémas de pensée un peu mythiques. Donc la figure de l'expérimentation rentre pleinement dans cette logique-là de cette valeur un peu mythique des habitants, le savoir-faire, l'échange des savoirs, la bonne mutualisation des pratiques, etc., etc. Alors, sauf que quand on a un regard rétrospectif, et dans le texte de Yannick, il y a cette dimension-là, on voit bien tout le travail d'expérimentation, mais alors, une beauté absolue, des communautés anarchistes et des socialistes utopiques de la fin du XIXe siècle, on était déjà dans l'ensemble des propositions qu'on réactualise aujourd'hui autour de cette mutualisation, du commun, de la négociation partagée, de la non-marchandisation des échanges, etc., etc. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'on vit dans des logiques anarchistes et communautaristes, et que, effectivement, c'est une autre logique qui s'est imposée, notamment avec une vraie réflexion qu'on doit avoir sur la question de la propriété individuelle, et qui, là aussi, n'est jamais interrogée sérieusement dans les réflexions sur ce qu'on appelle les écoquartiers, etc., où, effectivement, comme vous l'avez rappelé, une des premières préoccupations, c'est de savoir où je vais pouvoir garer ma 55 bagnole. Et ça, on a des cartes extrêmement intéressantes sur la zone de l'Union, où ce qui a été essentiellement négocié et travaillé avec les entreprises, les individus, les opérateurs urbains, etc., c'est la place des parkings. Voilà. Première chose qui vont se trouver de négociation très rapidement. Deuxième grille, c'est le présupposé de la durabilité. Alors, la durabilité sera acceptée individuellement et collectivement, notamment le développement durable, le développement soutenable, la transition énergétique, transition écologique, etc. Là aussi, de quelle durabilité on parle ? Alors, ce n'est pas la question de la définition qui m'intéresse, c'est la question de savoir qu'il y a un implicite dans l'utilisation du mot. Tout le monde peut faire de la politique durable. Je ne suis pas certain que, déjà entre nous, on soit d'accord sur ce qu'on entend par durabilité. Alors, sur le plan théorique, il y a déjà des courants extrêmement intéressants qui font bien entre durabilité forte et faible. Les économistes, faut bien leur rendre cet hommage-là, ont effectivement travaillé pas mal là-dessus. C'est extrêmement intéressant de savoir déjà si on considère que le capital naturel est substituable avec du capital technique ou économique. Si on considère que c'est le cas, vous voyez, c'est pas du tout la même manière d'appréhender ce qu'on va appeler la durabilité forte ou la durabilité faible. Si vous considérez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être substituables et donc il faut les préserver en tant que telles, eh bien il y a quelque chose qui va influencer la manière d'élaborer la décision publique. Alors il y a le travail par exemple de Jeanne Catrice qui vient de sortir un petit livre extrêmement intéressant sur la manière dont finalement le capitalisme de blanc total il réussit à récupérer, ça s'inspire un peu des logiques de Paul Sansky et Telmo, il réussit à récupérer finalement même ces petits espaces interstitiels là, de la logique non marchande, coopérative, etc. Et puis il réussit à labelliser ça sur d'autres formes, mais finalement les marchandiser comme tout le reste. Donc on voit bien que ces espaces de durabilité là, qui pouvaient être un petit peu plus radicaux et contestataires, ce que Yannick a rappelé, eh bien finalement sont tout à fait ingérables et intégrables dans les logiques, par exemple, Monoprix, les grandes chaînes de supermarchés qui ont toutes maintenant des rayons bio, équitables, machin, avec de la viande d'origine un peu bon. Enfin, si on s'intéresse là-dessus, si on s'intéresse aussi sur l'efficacité énergétique, c'est toujours rigolo, mais ça c'est facile de le dire. On fait des trucs, des colloques sur le développement durable, dans des bunkers où on profite absolument pas de la lumière naturelle, où il y a un stroboscope depuis tout à l'heure qui m'énerve là, qui fait mal à la tête, etc. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans une possibilité, même simplement en termes d'aménagement technique, de répondre à un minimum d'exigences de ce qu'on appelait. Alors, c'est effectivement durabilité forte ou durabilité faible, ça renvoie à une question qu'on n'a pas posée ici, mais qui est importante. Soit on est dans une stratégie d'atténuation, et dans ce cas-là, on va. PPC, tout ça, c'est bien, la mobilité propre, la voiture, etc. Bon, avec les effets de compensation, il y a les travaux d'une sociologue anglaise qui s'appelle Elisabeth Chauve, S-H-O-V-E, je le cite beaucoup, à juste titre, qui montre bien ce phénomène de double contrainte entre des aspirations, pour reprendre le terme, des aspirations qui sont portées par des individus, sauf que ces aspirations sont toujours contextualisées dans un environnement social qui contribue à produire ces aspirations. Et nous pouvons toujours aspirer à une vision écolo un petit peu plus forte, N'empêche que nous sommes rattrapés, nous sommes inclus dans des contraintes sociales qui font que c'est extrêmement compliqué à négocier. Et ça, on a travaillé là-dessus sur un programme de recherche sur la sobriété énergétique. Et bien, négocier sa consommation énergétique, sauf quand vous y êtes contraint parce que vous avez pour les moyens de payer, et bien, c'est extrêmement compliqué sur le plan social. Tu as rappelé l'exemple de cette. Bon, il a fait un an le gap, puis après il a arrêté, il a continué à voyager, vous savez, toi. Et il n'y a pas beaucoup de continuité dans son expérience, c'est assez intéressant. Enfin, la troisième grille, ça c'est la question. Qui me paraît intéressante aussi à poser sur cette question de la mise en place de la durabilité dans l'espace urbain. Vous voyez, on n'a pas répondu sur savoir ce qu'on appelait durabilité. C'est de savoir si cette durabilité va répondre ou pas en temps et en heure avec les contraintes qui sont posées par les enjeux environnementaux. Parce que, a priori, hein, si on se réfère à la logique du développement durable, c'est bien de prendre en compte cette tension sociale plus la tension environnementale qui se cumule et proposer une nouvelle forme de gouvernance pour y répondre. Là, on voit bien que, effectivement, d'abord, on peut soulever un certain nombre de conflits normatifs, hein, normatifs au sens des contraintes personnelles, les croyances qu'on a vis-à-vis de cette capacité à accepter ou pas les irréversibilités, les limites environnementales, si on considère qu'on va pouvoir. Finalement, le gaz de schiste va nous permettre de continuer à la consommation énergétique, ben, s'il n'y a pas de problème, si vous voulez, des limites ou d'irréversibilité, etc. Donc si on est déjà dans la manière dont on va pouvoir régler ces conflits normatifs, ce qui n'est déjà pas évident, la manière aussi dont on va pouvoir adapter les actions en fonction de ces conflits-là, c'est-à-dire est-ce que je crois ou pas à l'irréversibilité de la biodiversité, dans ce cas-là, est-ce que chacun de mes actes quotidiens conduit ou pas à participer à cette irréversibilité-là, ou tu sais, c'est vraiment angoissant comme question, puis assez complexe à poser, eh bien la question est de savoir comment on va réussir à créer du bien-être collectif, puisque c'était aussi une des questions que vous aviez soulevées dans votre atelier, comment est-ce qu'on assure le bien-être collectif? Alors ici, réponse de Normand, il faudrait renégocier ce qu'on appelle le bien-être collectif, c'est-à-dire, est-ce que le bien-être collectif passe par un niveau d'accumulation des biens matériels tel qu'il est préconisé comme valeur centrale dans notre manière de construire le rapport à l'économie, au travail, à la relation sociale des individus, etc. C'est avec Kant qui raconte ça dans un de ses livres, qui n'a pas pire que les divorces pour faire exploser l'empreinte écologique des individus. Un divorce, c'est deux familles, enfin c'est deux habitats, c'est deux PlayStation pour les gamins évidemment, hein, c'est de la mobilité de bagnole, c'est la compensation matérielle des cadeaux pour les enfants, etc., etc. Donc on voit bien qu'effectivement, bah, soit on se marie pas, soit on fait pas de gosses, soit on divorce pas. Vous voyez, les implications sociales, c'est bon, si on voulait être vraiment écolo, strict dans ce sens-là. Donc, c'est les travaux de Guillaume Faburel qui ont bien travaillé ce rapport entre le bien-être et l'aménagement urbain. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est facile de définir, ce que dit Guillaume Faburel, c'est facile de définir une norme de bien-être. C'est extrêmement compliqué de la rendre cohérente dans un dispositif d'aménagement urbain. Et donc, on va assister à des processus de négociation qu'il a bien étudiés, processus de négociation qui, la plupart du temps, réaboutissent à reformuler cette notion de bien-être avec un double discours, un discours affiché, voilà ce que c'est que le bien-être, puis un discours négocié dans la vie individuelle de chacun d'entre nous qu'on connaît. Voilà. Alors, ces tensions là, temporelles et puis ces tensions cognitives, et là, ça colle bien aux pratiques des expérimentations. Alors, pour différentes raisons, je m'associe parfaitement aux remarques de Yannick là-dessus, je vais en rajouter deux, trois autres. D'abord, parce que dans les expérimentations, dans leur diversité, comme tu le dis, Yannick, paraissent composer un système de valeurs. Alors, sans doute c'est stable, hein, que ça fasse émerger un système de valeurs un peu nouveau. Le seul problème, il ne faut pas non plus sous-estimer les divergences stratégiques mises au jour à travers ces expérimentations. Là, je vous renvoie à la thèse de Luxemal, qui a fait une thèse remarquable sur le catastrophisme en politique et qui a étudié les mouvements des villes en transition et les mouvements de la décroissance. Eh bien, on n'est pas du tout dans les mêmes registres politiques, on n'est pas du tout dans les mêmes visions du monde, on n'est pas du tout dans les mêmes aspirations. D'un côté, je suis vraiment à la SERP, pour ne pas rester blessant, à la SERP, d'un côté, vous avez la transition qui est dans une idée d'adaptation radicale à une imposition écologique. La catastrophe, l'effondrement se produit, il est en train de se produire, nous vivons, et donc il faut s'adapter. Et puis d'un autre côté, la décroissance, c'est un autre monde est possible. Sous-entendu, bon, on va pouvoir négocier finalement ce monde-là, ça va être compliqué, mais une fois qu'on aura bousillé tous les capitalistes, ça va aller déjà beaucoup mieux. Hein. Le livre livre de Susan George, notre crise des valeurs, sous-entendu qu'on n'était pas, on n'est pas dans le même bateau. Donc on voit bien qu'on a une divergence profonde d'analyse. Soit il y a une contrainte écologique préexistante, soit il y a une négociation possible avec la contrainte écologique. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans la même perspective d'action, etc. On n'est pas du tout non plus dans les mêmes dimensions spirituelles. On a passé un séjour avec des étudiants de 5e année, c'était super, à Totnes, et bien je peux vous assurer qu'on a été frappé par la spiritualité qui engage chacune de leurs actions, c'est-à-dire l'idée d'une collection avec des valeurs un petit peu proches et réaffirmées et surtout revendiquées, par exemple la type écologie, pas la type écologie façon naturelle, mais après une théorie vraiment intéressante par ailleurs. Deuxième réflexion, c'est la capacité de reproductibilité de ces expérimentations. Alors c'est très facile de dire qu'il y en a plein, c'est vrai qu'il y en a plein, surtout sur l'effet persistant des logiques d'Internet, mais c'est des systèmes de valeurs qui ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations sociales, c'est-à-dire que là encore, la dimension métaphysique, hein, par exemple des transition time, c'est pas forcément la même par rapport à une conception un peu cartésienne de l'élaboration de la décision collective, que les dimensions écocentriques très fortes dans un certain nombre de courants, par exemple de changement de comportement alimentaire, ne sont pas forcément toujours adaptés par rapport à ce que nous concevons comme rapport à l'alimentation et le plaisir alimentaire, etc. Que la manière effectivement de percevoir son rapport à la consommation énergétique, cette volonté de réduire sa consommation énergétique, c'est pas du tout la même chose si vous êtes dans une situation de contrainte ou dans une situation de démarche volontaire. Est-ce qu'il y a une dimension de fraternisation, de fraternité avec l'ensemble de l'humanité pour partager la richesse énergétique ou pas, etc. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Donc autrement dit, ces capacités de reproduire ces expérimentations, eh bien, ça pose une vraie question sur leur durabilité. En plus, elles sont souvent segmentées. Alors, certains sont plus spécialisés sur l'alimentation. Luxeman a étudié les mouvements de slow food. C'est rien de plus que le bonheur est dans le pré façon Gers. Hein. Ça n'a aucune portée politique. C'est simplement vivons bien, soyons sympas entre nous, etc. Il n'y a pas de critique de la société. Il n'y a pas de remise en cause effective d'une logique productive. Il n'y a pas de remise en cause sur la réflexion sur la manière dont l'environnement est perçu comme une condition essentielle de l'organisation des sociétés humaines. Non, c'est simplement une réaffirmation de l'existence des liens sociaux à travers quelque chose d'assez banal, la pratique alimentaire. Donc c'est effectivement ces modes d'action qui sont porteurs de visions d'avenir qui ne sont pas forcément conciliables entre elles. Déjà, ils sont minoritaires, ces mouvements. Donc, si vous voyez, en plus, ils ont des difficultés à se coordonner pour partager une même vision. On est là sur des logiques assez banales, hein, en sciences politiques, qui consistent à analyser sur la manière de construire des logiques collectives, hein, comment on passe de pratiques individuelles à des logiques qui vont être significatives sur le plan des comportements collectifs. Bon, on sait très bien que si on veut changer sur la question environnementale, il faut partir sur des questions collectives. Et je termine, ces temporalités des expérimentations, eh bien, est-ce qu'elles sont vraiment compatibles avec les temporalités des crises écologiques? Soit on est dans l'hypothèse continuiste, on adapte plus ou moins fortement, mais ça va passer. Soit effectivement, de toute façon, les contraintes écologiques sont telles que, de toute façon, on sera obligé de modifier les comportements de manière assez moins conviviaux et moins délibératifs. Et puis là, la question, effectivement, qui se pose des capacités de transformation et des capacités d'adaptation et des capacités de choix collectif. Voilà.